Orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, après avoir parlé de la matérialité et du corps, après avoir parlé de l'énergie, je voudrais aujourd'hui terminer ce petit passage dans la matérialité des choses par la question de la santé. La santé est une vertu. Nous en percevons la profondeur lorsque nous parlons de la santé de l'âme, de la santé spirituelle. C'est-à-dire quand nous sentons si certaines choses sont saines ou pas. Qu'est-ce qui nous semble sain. Ce qui nous semble sain, c'est ce qui est intègre et qui ne fait pas intervenir des éléments entre guillemets impurs à l'intérieur de quelque chose de pur. Le malsain est toujours quelque chose de double. Quelque chose qui n'est pas franc, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas net. Cela provoque en nous un certain malaise. Et ce malaise est révélateur du malaise que nous ressentons à l'intérieur des choses malsaines. Elles donnent l'impression d'être saines, d'être normales. Elles ne sont ni saines ni normales parce qu'elles jouent un double jeu. Elle trompe. La santé ne trompe pas. Elle est une, elle est intègre. Et en plus, elle possède une vitalité particulière au sens où la santé ressemble à la paix définie par Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix est quelque chose de plus que l'absence de guerre. Bien évidemment, l'absence de guerre est souhaitable, mais ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'énergie de la paix, qui est une énergie heureuse. Il faut qu'il y ait la joie. C'est la joie qui nous rend véritablement en paix. Même chose avec la santé. La santé n'est pas l'absence de la maladie. La santé est quelque chose de plus que l'absence de la maladie, qui est une joie du corps, une joie de l'âme. D'où l'importance de la santé. J'ai toujours été frappé par la beauté des offices liturgiques lors du mariage, tel qu'il est conçu par la tradition orthodoxe. Et il est demandé à Dieu de bénir les mariés dans leur corps et dans leur âme. Et on prie pour la santé du corps et de l'âme. En permanence, d'ailleurs, dans l'Église orthodoxe, on prie pour la santé du corps et de l'âme. Et bien évidemment, je sais que dans la tradition catholique, il en va de même. Et j'imagine chez les protestants aussi, en tout cas chez tous les chrétiens qui souhaitent la paix du corps et de l'âme, la santé du corps et de l'âme pour toutes les hommes, toutes les femmes et tous les hommes. La santé passe par la santé du corps. Qu'est-ce que la santé du corps? La santé du corps, c'est ce qui permet au courant de la vie qui est pleine de vie, pleine d'énergie de la vie, pour pouvoir se manifester. Nous sommes en pleine santé quand nous sentons la vie vivre en nous et que nous nous sentons vivants. Michel Henry voit dans le fait de se sentir vivant l'expérience la plus profonde qui soit, l'expérience phénoménologique par excellence, l'expérience du vécu tel qu'il est pensé philosophiquement en profondeur. Santé du corps, vitalité, courant de vie traversant le corps est visible dans la mesure où quand quelqu'un est en pleine santé, se voit, il y a ce rayonnement du corps qui fait sa beauté, sa lumière. Mais même chose pour la santé de l'âme. La santé de l'âme réside dans ce qui se passe quand l'âme est joyeuse parce qu'elle se sent vivante et qu'elle a des pensées qui la remplissent de joie. Si bien que la santé, quand elle traverse à la fois le corps et l'âme, donne la vie corps et âme, la vie unifiée. Tout ce qui se passe dans le corps se passe dans l'âme, tout ce qui se passe dans l'âme se passe dans le corps. Et dans le corps et dans l'âme, on voit un même courant traverser et le corps et l'âme pour faire rayonner la vie. Il est magnifique de vivre la santé du corps et de l'âme. Épicure disait que la philosophie consiste à être heureux et être heureux à travailler à la santé du corps et de l'âme. Il est ô combien souhaitable de vivre la santé du corps et de l'âme. Il ne reste pas moins que cette santé n'est pas complète s'il n'y a pas quelque chose de plus que la santé. Et c'est là qu'apparaît la révolution chrétienne. Le Christ nous emmène non pas simplement dans la santé du corps et de l'âme pour bien jouir de la vie, et bien jouir de l'humanité qui est nôtre, mais pour connaître la vie ressuscitée, c'est-à-dire la vie plus que vivante, avec un corps qui est plus qu'un corps et une âme qui est plus que l'âme. Et là, on ne peut plus parler de santé. On va au-delà de la santé. C'est la limite que l'on peut apporter à la modernité qui, avec Descartes, pensait le salut en termes de santé. Qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé? C'est qu'on est en pleine santé, disait Descartes, et on peut vivre la santé du corps parce que le corps obéit parfaitement au mécanisme qui est le sien et parce que les pensées sont ordonnées. Bien évidemment, si mon corps obéit parfaitement comme une machine fort bien huilée, je suis heureux et plein de joie. Comme je suis plein de joie si je sens cette fluidité de la vie passer à travers l'ordre de mes pensées. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que pour véritablement connaître la santé du corps et de l'âme, il faut être délivré totalement de l'angoisse de ne pas être en pleine santé et dans le corps et dans l'âme. On le voit très bien chez le malade imaginaire. Le malade imaginaire n'est pas malade au sens banal du terme, il est dans la pire des maladies qui consiste à être malade, à l'idée d'être malade. Il n'a pas trouvé la santé intérieure, la santé de l'âme. Et qu'est-ce qui ne peut nous permettre de trouver la santé de l'âme? Une seule chose peut nous permettre de rencontrer la paix de l'âme, c'est l'expérience de la vie absolue qui est la vie divine. La caractéristique de la vie divine, c'est que cette vie est totalement innocente. Cette vie totalement innocente, on la trouve dans l'expérience inouïe, qui est une grâce divine, à savoir être complètement délivré de toute violence à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait que nous touchons à un état divin de l'existence? C'est quand nous sommes totalement débarrassés de toute idée de violence et que, par exemple, il ne nous viendrait pas à l'esprit de faire du mal à qui que ce soit. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de tuer. Nous sommes alors dans la paix absolue. Et dans cette paix absolue, nous connaissons la santé absolue de tout notre être qui rejaillit sur notre corps et sur notre âme. Autrement dit, en ce sens, seul Dieu peut guérir les hommes et leur donner une santé totale, parce que seul le contact avec l'innocence divine infinie peut nous remplir nous-mêmes de cette innocence par une contagion vertueuse. Expérience de la vie divine, au contact de Dieu qui est le bien plus que bien, nous avons envie de devenir meilleurs, et quand nous faisons vivre en nous ce meilleur de nous-mêmes, ce meilleur nous rend meilleurs et petit à petit purifie notre être pour nous donner un état d'innocence qui se voit dans le regard de tous ceux qui vivent spirituellement. Il y a une lumière, une douceur, il y a une liberté, un dégagement. Il y a un bien-être pacificateur qui se lie à travers leur visage et qui nous donne envie d'aller dans le meilleur de nous-mêmes pour faire vivre en nous aussi cette innocence. Merveille de l'expérience divine, de la santé du corps et de l'âme, la santé du corps et de l'âme vécue étant le tremplin vers une santé plus grande, encore plus merveilleuse, inconnue, donc passionnante à découvrir. C'était le chœur des moines de Cheftoigne dans un extrait de la Divine Liturgie. Chère Sandrine, c'est avec un grand regret que je vois s'ouvrir cette quatrième séance avec vous et en même temps cette page se refermer. J'ai eu tellement de plaisir à vous écouter avec votre enthousiasme, votre énergie, votre intelligence, votre inspiration. Vous nous avez parlé la dernière fois de Rebecca et du puits du baptême qui est préfiguré dans cette relation entre Rebecca et le puits, et vous vouliez rajouter quelque chose.
Alors, ce que je voudrais, c'est montrer l'intérêt pour un chrétien qui est évidemment orienté sur les évangiles. Hein, la première chose qu'on apprend à un petit chrétien qui vient de se faire baptiser ou qui est juste en âge de comprendre, c'est qu'on lui dit voilà l'évangile, voilà Jésus, voilà son histoire. Donc c'est quand même Jésus le centre, le Christ. Et donc, une fois qu'on a le Christ, le Premier Testament, c'est pas très important. Eh bien si. D'ailleurs, il y en a qui disent que si on lisait, si on enlevait toutes les citations, il paraît qu'il y en a des centaines, hein, de l'Ancien Testament, dans, inscrites dans le Nouveau, soit entre guillemets ou qu'elles soient une allusion, on n'aurait plus que 10 pages. Donc ça montre à quel point c'est imbibé, le Nouveau Testament, et le Christ est imbibé de cette première alliance qui est ça, qu'on appelle l'Ancien Testament.
Le Christ cite constamment les Écritures.
Constamment. Voilà. Et quand il ne les cite pas entre guillemets, il les cite quand même. Et c'est un passage que je voudrais, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, au verset 14. Alors, juste pour mettre dans le contexte, c'est ce qu'on appelle l'entretien avec Nicodème. Donc ce maître parmi les pharisiens, un des notables juifs, qui vient de nuit de poser des questions à Jésus. Nous savons que tu es un maître en Israël et tu ne peux pas accomplir de si grandes choses si jamais tu n'étais pas à habiter du Saint-Esprit.
Tu n'es pas le diable. Ouais, nous savons que tu n'es pas le diable.
Non seulement que tu n'es pas le diable, mais que tu es quand même un grand. Quoi. Tu es un grand, donc explique-moi. Quoi. Explique-moi. Voilà, je veux en savoir plus.
Ouais.
Donc, il se distingue de ces autres pharisiens qui rejettent un peu Jésus ou qui sont un peu suspicieux. Lui, il n'est pas suspicieux, il va droit au but et il va rencontrer le Christ. Bon. Et le Christ, et si vous regardez bien ce texte, bon, on ne va pas faire une analyse aujourd'hui, Nicodème parle beaucoup au début, petit à petit, sa voix se tait et c'est la voix de Jésus qui prend le relais. Quoi. Et ça se termine par un grand discours de Jésus. Et Jésus, voilà ce qu'il dit. Il parle évidemment de la foi, hein, comment vous croirez, etc. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel. Donc il se montre comme celui qui vient du Père, hein, du ciel. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Alors écoutez bien, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens ici qui ont été voir par curiosité qu'est-ce que c'est cette allusion qui pourrait évidemment quelqu'un qui connaît un peu la Bible est très clair, cette allusion de celui qui est élevé comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais de quelle élévation parle-t-on? Et qu'est-ce que Moïse élève dans le désert? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de désert? Bon. Donc, heureusement, nous avons des Bibles avec des notes de bas de page, des petites notes qui nous renvoient à un épisode du livre des Nombres, au chapitre 21, où le peuple râle, murmure contre Moïse, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des serpents qui viennent les piquer et les faire mourir. Alors, pour reprendre le texte, ils partirent, voilà. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? Donc, ils râlent. Pour que nous mourions dans ce désert. Donc, il y a toute cette question de vie et de mort. Hein, car il n'y avait ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent et moururent un grand nombre de gens en Israël. Voilà. Donc il meurt de ces bons. Et puis le peuple se repent, il vient trouver Moïse, il dit bon, on a péché pour qu'il y ait cette calamité, on a péché, on a fait quelque chose qui va pas. Et Moïse intercède et le Seigneur dit à Moïse, tu vas mettre un brûlant. Un brûlant, c'est-à-dire en fait un espèce de serpent en airain, c'est-à-dire un serpent qui est maîtrisé par rapport à ces serpents qui vous brûlent et qui vous font mourir. Et tu vas le mettre en haut d'une hampe et tu vas l'élever. Et ceux qui vont le regarder, hein, et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Mais qu'est-ce que c'est que ce texte, quoi? Quand vous regardez un truc en airain, en regardant au ciel, là, comme ça, sur une hampe, vous avez la vie sauve alors que vous venez d'être mordu. Attendez, c'est absurde. Et donc, qu'est-ce que veut dire Jésus? Donc, il y a un rapport qui est extraordinaire, parce que si Jésus est élevé, il est élevé d'abord sur la croix et ensuite dans son ascension. Et on a la vie éternelle, il parle de vie éternelle, donc on est bien dans le même registre. Et si on regarde bien la tradition d'Israël, la tradition d'Israël dit, et notamment le Targoum, et puis même les rabbins, ils disent, ce serpent d'airain, il a une fonction thérapeutique. Il a une fonction thérapeutique. Et chaque fois que Moïse levait les mains vers le ciel, Israël se renforçait dans les paroles de la Torah. De même que le sang sur les montants des maisons avait sauvé le peuple de l'exterminateur, de l'ange exterminateur, de même, ceux qui élèvent leur regard sur ce serpent d'airain, en fait, ils élèvent leur regard vers Dieu. Voilà. Et donc, c'est l'idée que c'est pas tellement le serpent d'airain qui va sauver, c'est le fait qu'on écoute la voix de Moïse qui n'est qu'une mise en œuvre de ce que Dieu demande, et donc on croit en Dieu, c'est cette foi qui fait qu'en fait on est sauvé. Et donc on est bien dans le même registre. Et sachant en plus que ce signe, on dit que c'est un signe, un séméion, un étendard. Et alors il y a une grande tradition autour du signe, parce que le mot signe, étendard, en hébreu se dit nes, et nes c'est le miracle aussi. C'est aussi le miracle, mais aussi l'étendard, ce qu'on élève en haut, comme ça. Donc il y a tout un jeu de mots aussi avec la langue hébraïque.
Et donc, le lien avec Nicodème.
Alors voilà, donc quand Jésus parle avec Nicodème, tout de suite, lui, il connaît par cœur son texte, et non seulement son texte, mais l'interprétation que l'on faisait déjà à son époque sur ce texte. C'est-à-dire, soit c'est une absurdité, regarder un airain sur un poteau, enfin bon. Soit il y a derrière effectivement toute une tradition de lecture qui vient d'ailleurs de Philon d'Alexandrie. Comment se fait la guérison de leur mal? Vous savez que Philon d'Alexandrie, il est pratiquement corain du Christ. Lorsqu'aura été fabriqué un autre serpent contraire à celui d'Ève, donc c'est le principe de la maîtrise de soi, car au plaisir s'oppose la maîtrise de soi. Et Dieu ordonne à Moïse de construire le serpent de la maîtrise de soi. Voilà, donc il y a cette idée-là. Et puis l'idée que Dieu... Alors, le serpent, on sait bien que le serpent, c'est pas Dieu. Il y a le serpent, le côté mal, et Dieu, le côté bon. Et bien justement là, le serpent maîtrisé va être l'instrument de guérison. C'est-à-dire, c'est comme celui qui regarde son péché, tout simplement. Celui qui regarde son péché... D'ailleurs, au niveau chrétien, c'est très clair. Celui qui dépose son péché au pied de la croix, c'est terminé.
Sandrine, un immense merci. Je crois qu'on voit bien, grâce à vous, comment on est passé, pour reprendre une expression d'Olivier Clément, du corps de mort au corps de gloire. Merci, chère Sandrine, et à très bientôt, car je ne manquerai pas de vous demander de revenir nous enchanter, nous enseigner sur Radio Notre-Dame.
Merci à vous.
Et pour terminer cette émission, à nouveau, le chœur des moines de Chevetogne dans la divine liturgie.
Et maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
Whatever happened.